en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Peut-être connaissez-vous ce bon mot que l'on attribue à l'ancien président François Mitterrand. J'ai deux avocats, aurait-il dit, Robert Badinter pour le droit et Roland Dumas pour le tordu. Eh bien, c'est à la fois un spécialiste du droit et du tordu que nous recevons aujourd'hui, un juriste qui enseigne à l'université de Bourgogne et en même temps un écrivain belge dont les écrits insufflent le charme discret de la fantaisie, de l'étrange, du fantastique ou de l'absurde. Un an après son roman L'affaire Meyerling, l'histoire d'un immeuble de haut standing dans lequel tout se déréglait, Bernard Quirini revient à sa grande spécialité, les nouvelles. Vie conjugale est parue aux éditions Rivage et justement, vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Bonjour Bernard Quirini.
Bonjour.
C'est le monde qui est étrange ou c'est vous qui voulez le rendre ainsi ?
Non, je crois que c'est le monde, pour autant qu'on le regarde un petit peu en biais. Voilà, il suffit parfois de s'arrêter, de regarder les choses d'une façon un tout petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de pratiquer et tout devient tout à coup extrêmement étrange. C'est ça qui est amusant et ça permet d'avoir des idées d'histoires fantastiques assez facilement.
C'est-à-dire que c'est d'abord le don d'observation qui vous donne le point de départ de chacune de vos nouvelles ?
Oui, c'est un petit exercice de changement de point de vue. En fait, c'est très facile. Beaucoup de gens me demandent souvent comment toutes ces idées fantastiques me viennent. En réalité, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de s'arrêter et de faire un petit pas de côté pour voir l'absurdité de nos modes de vie, pour voir le caractère extrêmement curieux de la façon dont nous fonctionnons tous les jours. Évidemment, nous n'y prenons pas garde au quotidien parce que nous sommes baignés dedans et ça nous paraît tout à fait naturel. Et en réalité, sitôt qu'on change de point de vue, ça nous paraît tout à fait curieux. C'est pour ça notamment que je recours souvent à ce procédé classique qui consiste à mettre en scène des tribus amazoniennes ou des tribus lointaines qui tout à coup donnent précisément un grand dépaysement et nous permettent de faire un retour sur nous-mêmes depuis ailleurs.
Mais c'est-à-dire que vous, lorsque vous êtes dans votre vie quotidienne, lorsque vous prenez le transport en commun, lorsque vous vous déplacez dans la rue, vous avez justement ce regard un petit peu distancié, y compris à côté de chez vous, sans aller jusqu'en Amazonie ?
Oui, je ne vais pas vous dire que ça m'arrive sans cesse, parce que je vis moi-même dans la réalité la plus normale et je ne me pose la plupart du temps pas de questions, mais parfois, dans mes moments de vague à l'âme ou dans mes moments de méditation, effectivement, ça m'arrive de me dire « Mais pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Pourquoi sommes-nous comme nous sommes ? Et pourquoi fonctionnons-nous comme nous fonctionnons ?» Ne serait-ce que de sortir de cet immeuble et d'aller voir dehors le flux absolument gigantesque des voitures qui roulent sur des lignes de béton. On se demande où vont tous ces gens, que font-ils, pourquoi font-ils tout ça ? Et à partir du moment où vous mettez le doigt dans cet engrenage-là, ça devient une sorte d'habitude assez, un peu troublante parce que vous avez vraiment l'impression que rien n'a de sens et en même temps assez drôle parce que vous vous rendez compte que tout est drôle.
Est-ce que vous utilisez aussi, Bernard Quirini, l'actualité, d'autres livres, les journaux également ? Est-ce que ce sont des sources d'inspiration pour vous ?
L'actualité, assez peu. En revanche, beaucoup d'idées me viennent souvent en lisant des livres parce que il m'arrive, pour une raison que j'ignore, de m'arrêter sur une phrase qui va me donner à réfléchir. Et parfois, cette phrase me donne l'idée d'une nouvelle. Et souvent, d'ailleurs, j'ai, par loyauté vis-à-vis de l'auteur de cette phrase qui m'a si bien inspiré, je mets la phrase en épigraphe. C'est le cas, par exemple, pour la première nouvelle du recueil, Le Club des Sédentaires. Je lisais un livre de Léon Paul Fargue, et je ne me rappelle plus de la citation exacte, mais elle dit à peu près « À une époque où les gens de votre génération n'avaient jamais dépassé Autun ». Je ne sais plus du tout pourquoi il dit ça, à quel sujet, mais je me suis demandé pourquoi des gens n'iraient pas plus loin qu'Autun.
Et c'est ça le point de départ de la
nouvelle. C'est ça le point de départ, et je me suis dit « Si ce sont des gens qui ont une pathologie, une aversion totale pour le voyage, on peut comprendre qu'aller au-delà d'Autun soit pour eux une sorte d'exploit. » Et ça m'a donné l'idée de cette nouvelle de sédentaire un petit peu compulsif, pathologique, pour qui voyager est un véritable enfer et qui se lance une fois tous les deux ans dans une sorte de compétition de voyage pour se mettre à l'épreuve dans le domaine où ils sont les plus faibles.
Voilà, une course de sédentaire. C'est quand même très étonnant parce que ce que vous nous décrivez finalement, Bernard Quirini, c'est un raisonnement, quoi. C'est un raisonnement à partir de la réalité, donc quelque chose qui est assez rationnel avec un déroulé qui se comprend, qui est compréhensible, et pourtant nous lecteurs, on se dit que ben il y a un petit grain de sable qui arrive dans votre histoire, un petit grain de sable qui est souvent étrange, souvent fantastique, donc a priori très loin d'un raisonnement rationnel si vous me passez le pléonasme.
Oui, non, vous avez complètement raison. Il y a deux choses. D'abord, beaucoup de nouvellistes, c'est particulièrement vrai dans la nouvelle, écrivent à partir d'une impression, d'un sentiment, d'une atmosphère, d'un décor. Bon, moi c'est beaucoup plus spéculatif. J'écris à partir d'une idée, à partir d'un le reste, le sensoriel ne venant qu'après à titre d'habillage. Et puis la deuxième chose, c'est que un seul décalage suffit. Si vous dosez mal l'absurde et que vous en ajoutez trop, votre nouvelle part dans tous les sens et ça n'a plus d'intérêt. Non, précisément, ce qui est amusant, c'est, comment dirais-je, de faire dérailler le train, mais ensuite de le laisser aller sur sa voie nouvelle, en toute logique, en toute rationalité, et en faisant comme si tout était normal.
Donc une petite tension du réel, et puis la vie continue.
Exactement. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, se produit en réalité dans le monde où nous vivons. Il arrive sans cesse des événements absolument stupéfiants, des choses totalement inimaginables, et puis on se rend compte que, ça me frappe toujours beaucoup, dès le lendemain ou presque, la surface des eaux se reforme, et nous tenons ce phénomène nouveau pour quelque chose d'acquis, nous vivons avec, et ça entre dans notre normalité.
Alors on rapproche souvent vos nouvelles de l'œuvre d'un Borges ou d'un Marcel Aimé, ce sont des références que vous revendiquez,
Bernard Guiry ? Oui, qui me flattent, et que je revendique. Alors c'est toujours un petit peu compliqué, ces histoires d'influence, parce qu'en réalité, on est parfois influencé sans s'en rendre compte par des gens dont on croit qu'on n'est pas proche, et puis des gens dont on se penche dont on se croit proche, en réalité, on ne les apprécie pas tant que ça. Mais pour ce qui est de Borges et Marcel Aimé, là, je peux quand même difficilement cacher que ce sont des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont appris d'une certaine manière. C'est particulièrement vrai pour Marcel Aimé, qui est, je crois, l'un des grands écrivains français du XXe siècle et dont la place aujourd'hui est peut-être un petit peu minorée par rapport à ce qu'elle mériterait d'être. Et chez Marcel Aimé, j'admire vraiment tout, à la fois le nouvelliste, c'est vraiment peut-être le plus grand nouvelliste français du siècle dernier. J'apprécie le romancier, et j'apprécie aussi l'individu, l'homme avec sa façon de voir les choses, son espèce d'anarchisme un peu goguenard, son espèce de libéralisme sarcastique en politique. Enfin, je trouve qu'à tous les points de vue, c'est un maître à penser.
Alors on va se plonger dans ce recueil, Vie conjugale aux éditions Rivage, avec un exemple, une nouvelle intitulée Paria, c'est la plus courte du livre. On est dans un cadre très réaliste, très banal, on est à la page 183.
À la terrasse d'un café, j'ai surpris l'autre jour une conversation entre deux messieurs, l'un blond, l'autre roux, qui se rencontraient pour la première fois. Moi, raconte le blond, je ne reste jamais longtemps nulle part, parce qu'on me déloge. Il paraît que je dérange, je ne fais pourtant jamais rien de mal, je suis là, paisible, immobile. Pourtant, au bout de quelques minutes, quelqu'un s'approche et me prie de partir. Des gens se sont plaints. J'entends ça 10 fois par jour. Tenez, hier au parc, j'observais les pigeons. Eh bien, un type m'a demandé de libérer mon banc pour le confort des autres usagers. Quels usagers ? Le parc était désert. Hélas, protester était inutile. 5 minutes plus tard, le même ou un autre me presserait à nouveau de déguerpir. J'ai pris mon chapeau et au revoir. À midi encore, j'ai déjeuné au restaurant. On m'a accueilli, installé et donné la carte. Mais au bout de 5 minutes, le serveur m'a suggéré de repartir à cause des plaintes. C'est comme ça, je gêne. On m'expulse. Bibliothèque, piscine, boutique. Parfois, j'aimerais savoir qui récrimine contre moi et qu'on vienne me le dire en face. Le roux prend alors la parole. Moi, c'est autre chose. Je suis invisible depuis 6 mois. C'est venu d'un coup. Le premier jour, ma femme ne m'a plus regardé, comme si j'étais absent. J'ai cru à un jeu érotique, mais non. J'avais disparu. Elle ne me voyait plus, littéralement. Même chose au bureau. Mes collègues ne m'ont plus adressé le moindre mot. Ce n'était ni un canular, ni une caméra cachée. J'étais, je suis, exclu du monde. Je n'existe plus, du moins socialement. Un temps. Ce n'est pas sans avantage. Je peux entrer dans une boutique, me servir, partir sans payer. Personne ne m'arrêtera. Quand la tête d'un passant ne me plaît pas, je lui colle une beigne, sans craindre la réplique. Le point noir, voyez-vous, c'est la solitude. Je n'ai personne à qui parler. Enfin, presque. Parfois, quelqu'un me repère. Vous, par exemple, aux yeux de qui mon invisibilité ne joue pas sans que je sache pourquoi. Je suis content de pouvoir causer un peu. À cet instant surgit le garçon de café. L'air embarrassé, il murmura quelques mots à l'oreille du blond et retourna derrière le comptoir. Qu'est-ce que je vous disais ? Des gens se sont plaints. Adieu. Le roux haussa les épaules, puis héla le garçon 10 fois en criant. Mais personne, à part moi, ne prenait garde à lui.
Alors on peut sourire, on peut même rire de cette histoire, Bernard Quirini, on peut aussi la trouver un peu triste hein, si on essaie de se mettre à la place des deux protagonistes. Et c'est souvent le cas finalement dans vos histoires, elles peuvent générer chez le lecteur des sentiments différents, voire opposés, peut-être suivant l'humeur du lecteur. C'est un effet que vous voulez produire chez ceux qui lisent le livre ?
Non, pas spécialement, mais j'imagine que chaque lecteur prend chaque histoire avec son background, si je puis dire, et avec le lot d'émotions qu'il a en lui. On peut voir ça, moi je vois vraiment ça comme quelque chose d'assez drôle. Vous voyez, le type qui est dans le parc et à regarder les pigeons, c'est vraiment le personnage inoffensif, le personnage à la sampée, je le vois vraiment comme ça, le type à la sampée, à qui on n'a vraiment pas envie de dire de partir, quoi. Celui qui ne fait vraiment de mal à personne, et lui, systématiquement, on vient lui expliquer qu'il gêne. Mais pourquoi gênerait-il ? Et c'est cette espèce de décalage qui m'intéresse. Donc je vois ça comme quelque chose de plutôt humoristique et inoffensif. Mais on peut aussi interpréter ça comme une sorte de texte sur l'exclusion, sur l'incapacité de trouver sa place dans le monde.
Mais il n'y a pas que celui-ci. Hein. Par exemple, il y a l'histoire de ce monsieur qui est constamment malade. Alors tous les jours, il y a un organe différent qui ne va pas bien. Alors c'est très drôle quand on lit. En même temps, on le plaint. Parce que si on se met à sa place, on se dit c'est absolument atroce. Et je raconte même pas la fin.
Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Je constate que j'ai tendance à concevoir, moi, ces nouvelles sous un angle finalement humoristique, en ne voyant que l'humoristique, mais que bien souvent, ce sont des frayeurs ou des angoisses qui peuvent se cacher derrière. Alors, peut-être sont-elles les miennes, j'en sais rien, au fond. Mais enfin, si vous les prenez comme telles, moi, ça me va.
Alors, des angoisses, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de fantaisie. Mais pas n'importe comment, parce que c'est du concentré, hein, c'est précis, c'est concis. Pourquoi cette préférence, Bernard Quirini, pour la forme courte ? Parce qu'on se dit que c'est une contrainte.
Oui, alors c'est vrai que c'est une contrainte. Moi, je ne le ressens pas comme une contrainte. Je pense que c'est une histoire de tempérament. Plus exactement, c'est à la fois une histoire de tempérament, en ce sens qu'il y a des écrivains qui sont naturellement doués pour la forme brève et d'autres qui sont naturellement portés vers la forme longue. Puis c'est aussi une histoire d'idées, c'est-à-dire qu'on est tributaire du poids de forme de l'idée qu'on va avoir. J'entends par là que quand vous avez une idée d'histoire, certaines nécessitent un développement long et d'autres nécessitent un développement plus court. Ça ne veut pas dire que les idées qui donnent lieu à un développement court sont des idées courtes, de la même manière que quand vous voyez un boxeur poids-plume, vous ne dites pas que c'est un moins bon boxeur que le boxeur poids-lourd sous prétexte qu'il est plus léger. Non, c'est juste que le poids de forme de cette idée, la bonne distance, c'est une distance de 15 pages, 10 pages ou pourquoi pas même 5 lignes. Bon, il se trouve que la plupart de mes idées sont des idées à connotation fantastique et qu'elles se prêtent à des développements courts, et c'est un format que j'aime bien en plus parce que, ça procure une satisfaction beaucoup plus immédiate. Un roman, vous allez le traîner pendant des années. La nouvelle de 3 pages ou de 15 pages, vous pouvez la commencer le matin, l'avoir à peu près terminée à midi, la corriger l'après-midi et avoir le soir un produit fini, c'est extrêmement satisfaisant.
Alors, c'est très court, mais dans l'ensemble du recueil, il y a beaucoup de variations. Hein. Dans le rythme, il y a des récits qui sont extrêmement dialogués, d'autres pas du tout. Il y a des incises, des sortes de petits encadrés, il y a des passages épistolaires, il y en a d'autres qui prennent la forme de citations. On a un peu l'impression que vous vous amusez. Est-ce que c'est drôle d'écrire des nouvelles? Est-ce que c'est un exercice de style? Est-ce que c'est un jeu?
Ah oui, on peut dire que c'est ludique, c'est un jeu. Et puis, il y a aussi un point auquel je suis attentif, c'est que je sais par expérience que beaucoup de lecteurs de nouvelles peuvent avoir quand le libraire leur propose un livre de nouvelles, une sorte de réticence dans la mesure où on se dit je vais avoir affaire à une quinzaine de petits romans et je vais devoir il va y avoir une forme de monotonie, de répétition et je vais devoir refaire une quinzaine de fois le petit effort initial d'acclimatation nécessaire à entrer dans l'histoire. Et j'essaye de débarrasser le lecteur de cette hantise-là en variant au maximum les formats et en lui donnant un objet que j'espère aussi ludique que possible, avec des formes extrêmement variées, des formats, des longueurs extrêmement variées, de telle sorte que ça soit pas simplement une collection de nouvelles, une accumulation de nouvelles qui seraient un petit peu toutes la même musique, mais une sorte de puzzle avec sa cohérence et sa diversité.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Bernard Quérini qui publie « Vie conjugale » aux éditions Rivage. Alors quand on ouvre le livre, on entre directement dans la première nouvelle. Il n'y a pas de préface, ni d'avant-propos, ni même de dédicace ou de remerciement. Mais il y en a toute une série à la fin, réunie dans un seul chapitre, le dernier, une sorte de patchwork fantaisiste et drôle. Et au-delà de la question de la préface, la question de l'écriture, du rôle de l'écrivain revient très souvent dans ce recueil, Bernard Quérini. Ce livre, sous couvert d'humour, c'est aussi une réflexion, une somme d'interrogations sur votre métier d'écrivain ?
Je ne sais pas. Disons que, d'une manière générale, dans tous mes recueils de nouvelles, j'ai toujours marché sur deux jambes. Il y a d'une part une jambe proprement fantastique, vraiment la tradition du fantastique. Et puis, d'un autre côté, j'ai toujours aimé imaginer des livres qui n'existent pas, des écrivains qui n'existent pas. Le canular littéraire, c'est un truc qui a toujours marché sur mon esprit, vraiment. Je galope, si vous voulez.
Oui.
Voilà, la fameuse nouvelle de Borges, Tlon, Hugbard, etc. C'est un truc qui m'a toujours fait rêver et je pourrais la relire 10 000 fois sans cesser de rêver. Et du coup, depuis mes premiers recueils, qui datent d'une dizaine, voire d'une quinzaine d'années maintenant, j'essaye de nourrir une sorte de bibliothèque imaginaire en inventant des faux écrivains. J'avais publié un recueil en 2012 qui s'intitulait « Une collection très particulière » qui tournait presque exclusivement autour de ça. Et du coup, tout ce qui tourne autour du livre, le faux écrivain, la fausse préface, la fausse postface, enfin bref, tout le décor du livre est quelque chose sur quoi il m'amuse de broder et de faire des inventions.
Mais vous parlez des autres écrivains ou vous parlez de vous ?
Non, je parle des autres ou voilà, je ne parle pas du tout de moi.
Pas du tout. Entre les lignes.
Non, j'ai pas l'impression. Ceux qui veulent m'y trouver peuvent m'y chercher, mais je ne leur dirai pas si j'y suis.
Alors il y a des collections particulières. Il y a effectivement votre ancien recueil, mais il y en a aussi quelques-unes des collections particulière, même assez improbable dans cet ouvrage, puisque vous racontez l'histoire d'un éditeur pas comme les autres qui envisage une série suisse suicide qui ne comprendrait que des écrivains suisses suicidés, une autre qui s'appellerait Nom commun avec des écrivains au nom un peu passe-partout, ou encore la collection Parité qui regroupe des relectures de classiques dans lesquelles féminin et masculin seraient inversés. Ça donnerait un Monsieur Bovary ou une Mère Goriot, par exemple. Alors ça, évidemment, ça pourrait être amusant. Vous n'avez pas envie de vous lancer vous-même dans un vrai exercice de style, un vrai exercice d'écriture au long cours, taille roman?
Ah, je ne sais pas. Toutes ces collections un petit peu fantaisistes à contrainte, c'est un peu des hommages à l'Oulipo finalement, qui m'amuse beaucoup parce que la contrainte est fertile pour autant qu'elle ne soit pas trop, corsetante. Mais ce qui est génial avec l'Oulipo, c'est que ça devient fertile alors même que les contraintes deviennent absolument délirantes, absolument ubuesques. Et du coup, imaginer des contraintes totalement farfelues, c'est peut-être bête, mais moi ça m'amuse vraiment beaucoup et ça ne cesse de me faire rire. J'espère que le lecteur rit aussi en les entendant.
Complètement. Et c'est vrai qu'on se dit qu'à l'école, on aurait peut-être vécu la littérature de façon un peu différente.
Oui, je devrais peut-être me reconvertir.
Alors, il y a la figure de l'éditeur, celle de l'écrivain. Et quand on publie, il y a forcément aussi la question du titre, Bernard Quérini. C'est toujours délicat de titrer un recueil de nouvelles. Parfois, on trouve un titre très générique. Parfois, on en choisit une que l'on porte en étendard. Souvent, c'est la première nouvelle, celle qui ouvre le livre. Là, Vie conjugale. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là ?
Alors, je vais être très franc, jouer carte sur table et vous dire la vérité. Comme trouveur de titres, je suis absolument nul.
Et pourtant, chaque chapitre a un titre là au corps ciselé et extrêmement précis. On a peut-être du mal à imaginer ce que c'est. Il faut vraiment lire l'histoire, mais une fois qu'on l'a lu, on comprend tout de suite. Hein.
Pour trouver des titres de nouvelles, ça va, mais des titres de recueil pour la carte de visite qui figure sur la couverture, vraiment, je ne suis pas bon. C'est mon éditrice, Émilie Colombani, qui a trouvé ce beau titre.
Vie conjugale au pluriel.
Vie conjugale au pluriel, voilà, mais qui ne correspondait bizarrement à aucune des nouvelles du recueil. Mais il se trouve que l'une des nouvelles, finalement, s'y prêtait assez bien, moyennant quoi je l'ai réintitulée Vie conjugale et tout est rentré dans l'ordre. Alléluia.
Donc c'est le titre générique du recueil qui a donné son titre à la dernière nouvelle ou l'avant-dernière. Je sais pas si faut dire. C'est la dernière ou l'avant-dernière d'ailleurs ? Parce que le dernier chapitre,
C'est l'avant-dernière.
Donc le dernier chapitre, c'est aussi une nouvelle. Il faut la lire comme ça.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Bernard Quérini, d'avoir été avec nous dans VMDN. Vie conjugale au pluriel est donc paru aux éditions Rivage. Rivage qui publie d'ailleurs en version poche, cette fois-ci, le roman de l'an dernier qui avait eu énormément de succès, qui s'intitule L'affaire Meyerling. Merci beaucoup.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre. Main d'œuvre. Margot BD. Aujourd'hui, je suis
le forgeron gastronome. Nous nous trouvons actuellement dans l'atelier d'orfèvrerie spécialisé en fabrication de couverts, l'orfèvre cuilleriste, en plein cœur du Marais à Paris. Alors là, je viens d'avoir une commande d'un client pour un ensemble de couverts en argent massif. La maison propose plus de 50 modèles différents. Toujours, on va vérifier les informations dans le cahier, donc laissé par les anciens. Alors, donc pour fabriquer une fourchette de table, un modèle ruban numéro 14, on part avec un poids d'argent de 110 grammes. Je me nomme Jean-Pierre Côté-Dubreuil et je suis orfèvre. Dans mon grand lingot d'argent, je découpais 6 petits morceaux d'argent pour faire 6 fourchettes de table. Et donc là, c'est 10 cm, je vais les laminer donc pour étirer, pour l'amener à 15 cm. Pour la minoire, c'est deux rouleaux d'acier. Donc là, c'est vrai, quand on regarde ça, on se dit, bon, l'orfèvre va arriver à faire une fourchette dedans. Donc on a vraiment quelque chose de complètement rectangle. On a un petit barreau d'argent. On va le forger. Là, je prépare le tas. D'où l'expression « apprendre un métier sur le tas ». Donc on va forger comme un forgeron le lingot, donc avec un marteau de forge et un tas d'acier. Donc les gens trouvent ça tellement toujours beau, donc toutes les personnes qui passent dans mon atelier adorent mettre les mains dessus. Voilà, donc on passe un petit peu de toile comme ça pour éviter d'avoir des pièces qui puissent glisser, déraper. Donc là voilà, je positionne mes lingots dans la forge. Dans ce grand lingot là, préalablement chauffé, j'ai commencé donc à le pincer un peu à la base du fourcheton pour l'allonger et faire naître toute la tige, donc la partie étroite du milieu du couvert. Donc voilà les matrices historiques qui ont été façonnées pour chaque modèle. Alors, on peut appeler ça communément un moule. Et donc pour faire un couvert, on a deux matrices, une matrice mâle et une matrice femelle, donc les deux faces du couvert. Donc là, je vérifie toujours par rapport à la matrice mes proportions du lingot. C'est très agréable de domestiquer la matière comme ça. Voilà, écoutez, je suis pas trop mal. Donc maintenant, on va s'orienter près des deux grosses machines qui occupent le centre de l'atelier, à savoir les presses à balancier qui datent respectivement de 1904 et de 1925. La presse à balancier, elle va venir écraser, donc sous plusieurs tonnes, le lingot forgé entre ses matrices. On va venir faire apparaître le galbe, les largeurs, et également le marquage des dents. Parce qu'à l'estampage, les dents ne sont pas ajourées. Avec une fraise, j'ai ajouré les dents de ma fourchette. Donc la pièce, comme toute pièce d'argent, va être poinçonnée, donc va être signée. Pour une production française, on a un petit losange avec deux initiales encadrant un symbole. Et j'insiste beaucoup sur cette forme losangée, c'est la seule chose actuellement qui peut dire aux consommateurs que c'est une pièce réellement fabriquée en France. Et là, la fourchette est terminée, elle peut aller sur les plus belles tables pour ravir les gastronomes et les passionnés des arts de la table.
Aujourd'hui, j'étais
le forgeron gastronome.
Sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et avec nous cette semaine, Fanny Blechner, Elisabeth Le Quéré, Margot Bédé, Alain Pilot, bonjour à tous les quatre.
Bonjour, bonsoir.
Quoi de plus ordinaire au fond qu'un documentaire politique, a fortiori sur une campagne présidentielle. Il y en a à foison, Elisabeth, notamment sur ce qu'on a appelé le phénomène Macron. Alors certes, le film dont vous allez nous parler met en scène le candidat Macron, mais le personnage principal, c'est pas lui.
Ah là, c'est une jeune journaliste en campagne, elle aussi, elle s'appelle Astrid Mesmorian, elle travaille pour France Télévisions, et donc c'est sa première campagne présidentielle.
Ah, le journaliste politique, beaucoup en ont rêvé, tous ne l'ont pas fait. Alors de la politique au rire, il n'y a qu'un pas. et le journalisme culturel, on en parlera peut-être une autre fois. En tout cas, vous, Alain, c'est une autre jeune femme que vous avez choisi de mettre en lumière. Elle chante. Elle s'appelle Céline, sans E et avec deux N.
Mais avec E, Étienne Jomé, membre de The Marine Monk, les Anglais Niraj Shag ou Magic Air, collaborateur notamment de Camille. Céline a même fait appel à sa propre famille. Son album s'intitule Le Jardin et loin d'être au ras des pâquerettes.
Voilà, vous, Margot, vous allez nous présenter un livre de photographie, mais pas tout à fait un livre comme les autres.
Regardez, panoramique, toujours en noir et blanc, le photographe Pierre de Vallombreuse nous offre une nouvelle expérience avec son livre Au hasard des vents, c'est aux éditions Edicence.
Mais vous, Fanny, vous allez nous faire rire aujourd'hui.
Oui, enfin pas moi directement, mais les artistes que j'ai rencontrés, puisque mardi s'est ouvert à Paris la première édition du festival CFA.
CFA, comme le franc CFA.
En l'occurrence, il est bien écrit Comédie Festival Africain, mais écoutez son cofondateur, un humoriste qu'on connaît bien sur RFI, Maman, il nous a parlé monnaie lors du gala d'ouverture.
Alors le franc guinéen, le taux de change, c'est 1 euro égale beaucoup de francs guinéens. Beaucoup, mon ami. Il y a tellement de billets, tu ne sais plus où les mettre, tu vois. Quand tu vas à Conakry, la capitale de la Guinée, tu vas voir des gens tirer de grosses valises comme ça. Faut pas t'inquiéter, ils vont acheter une baguette, tu vois. Et le jour du marché, tu vas au marché, tu as l'impression que tout le monde va voyager à l'aéroport, quoi, tu vois.
Maman, donc, qui joue volontairement sur l'ambiguïté du nom du festival.
C'est parce qu'on est tous des taquins. L'humour sert à un petit titiller que les gens se demandent si c'est du lard ou du cochon. Est-ce qu'on va parler du franc CFA ou bien c'est autre chose? Donc, si les gens déjà sont intrigués par ce titre-là, ben, ils viennent et puis ils verront la réponse à leurs questions eux-mêmes pendant le spectacle. Donc, l'humour, faut toujours qu'il y ait de l'intrigue, de l'intérêt. Qu'on se dise que ça ne va pas être de l'eau tiède.
Aux côtés de Maman pour l'organisation de ce CFA, Jérémy Ferrari qui a participé à la sélection des artistes africains.
On a pris des stars du continent africain et de ce fait qui sont exportables partout dans le monde. Là, je m'adresse aux blancs qui n'ont pas d'origine africaine. Tout le monde peut comprendre ce qui se passe sur scène. Il n'y a pas besoin d'avoir de référence africaine. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en politique ou en géographie ou en quel que soit. Tout le monde peut comprendre l'humour de ces humoristes. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous avez des gens qui, tout à coup, parlent votre langue et parlent des mêmes choses que vous, mais pas de la même manière. Donc, pas la même vision sur tout. Ils ont leur propre politique, leur propre référence. Comme l'humour, c'est en permanence de la surprise, c'est ça qui fait que quelque chose est drôle, c'est quand à un moment donné c'est quelque chose vous surprend, et bien c'est là où tout d'un coup toutes ces différences entre guillemets deviennent une richesse dans l'humour.
Et alors Fanny, ces artistes, quel thème est-ce qu'ils abordent sur scène?
Durant la soirée de gala au Casino de Paris, il a certes été question de différences entre les pays, mais aussi et surtout d'amour, comme avec Digbe Cravate.
Vous n'allez pas aimer, je suis beaucoup plus contre les femmes. Généralement, on a une vie tranquille et c'est vous qui venez nous fatiguer. Parce que entre hommes, on s'entend bien, mais c'est la femme qui vient diviser. Même l'amitié est divisée par la femme. Et comme vous n'êtes pas bien, que vous êtes très mauvaise, moi j'en parle beaucoup dans mes sketchs.
Vous êtes un peu provocateur, non?
Ouais, je crois.
Mais c'est vrai qu'il ne va pas forcément se faire que des amis. Alors justement, Fanny, comment est-ce qu'il réagit le public?
Le public était vraiment très réactif, hein, n'hésitant pas à chanter, à crier, évidemment à rire. Comme avec ce sketch de Joël, lui aussi ivoirien. Une situation universelle qu'on a, je crois, tous vécu un jour dans une salle de classe.
Il dit, c'est bon, toi, table de deux. Deux. Deux fois un, deux. Deux fois deux, quatre. Deux fois trois, six. Deux fois quatre, huit. Il dit, c'est bon. Toi là-bas, table de huit. Vas-y, table de huit. Huit fois un, huit. Huit fois deux, il dit, oh, tu fais quoi comme ça? Monsieur, j'ai oublié la table de vide là. C'est la chanson des autres là qui est restée dans ma tête.
Joël qui défend justement ce rire au-delà des frontières.
En général, quand on vient faire l'humour ici, c'est vraiment communautaire. On a des valeurs qu'on partage tous. On a une culture qui est différente, mais il faut trouver le lien entre nos deux cultures. On passe beaucoup par la comparaison. La comparaison et l'autodérision, parce que je pense que dans ce sens-là, il n'y a que ces deux voies-là qui peuvent nous permettre de rire de nous. Voilà, comme est-ce qu'on on rit d'une situation en France, c'est pas la même façon à laquelle on rit d'une situation en Côte d'Ivoire. Donc c'est porter l'information de comment est-ce que nous on rit de nous, et puis comment est-ce qu'on rit de vous.
Oui, parce que le public français en prend aussi un peu pour son grade quand même.
L'ambassadeur Agalawal n'hésite pas à moquer le manque de politesse des Parisiens.
Moi j'ai un ami français, il s'appelle Christian. Un jour j'appelle Christian, je dis « Christian !» Il dit « Oui, je dis ben viens ici là. » Il dit « Ben, il y a quel problème ?» Je dis « Ben, dis-moi, pourquoi vous les Blancs, vous ne vous saluez jamais. Vous dites même pas bonjour à vos voisins. » Il dit « Ben, moi je dis jamais bonjour à mon voisin, mais parce que mon voisin, il me dit jamais bonjour aussi. Et comme il ne me dit jamais bonjour, du coup, je me dis, si je lui dis bonjour, ça peut le gêner. Et ça me gêne de le gêner parce que ce serait gênant qu'il soit gêné. Donc, pour éviter de le gêner en lui disant bonjour, je ne lui dis jamais bonjour ou pas politesse. »
Bon, on l'a compris, Fanny, hein, ce festival CFA met donc à l'honneur des artistes africains. Pas question de franciser le spectacle. Mais est-ce que certains sketchs ont quand même dû être un peu retravaillés?
On va plutôt parler de légers ajustements, comme explique Le Magnifique, il vient de Côte d'Ivoire aussi.
On a notre manière de parler le français à Abidjan. Vous articulez bien, vous prononcez bien, mais nous, on parle dans le lago ivoirien. Parce que quand on dit « donne-moi l'argent », Abidjan, faut donner l'argent là. Donne-la. Si on vous explique pas, vous ne pouvez pas comprendre. On fait pas l'humour seulement que pour son pays, c'est pour le monde entier. Donc il faut passer par les normes. Et puis on affronte surtout le public européen. C'est un défi, c'est un challenge.
Ouais, un public attendu nombreux pour cette première édition du Festival CFA avec Joël Agalawal, Le Magnifique, Michel Gou et Maman en spectacle à la Comédie de Paris jusqu'à jeudi 25 et puis ensuite des représentations aussi dans plusieurs autres villes de France. Merci Fanny.
5 secondes, 4, 3, 2, 1, Top Impact.
Bonjour. En fait, vous dérangez, je suis journaliste pour France 2. Donc, on a une recherche un peu spéciale. On cherche des gens qui ne sont pas encore tout à fait convaincus par Emmanuel Macron.
Ah, bah parfait, je ne suis pas convaincue du tout.
Mais qui, en l'occurrence, serait convaincu par Benoît Hamon, a priori.
Ah, non.
C'est pas votre cas?
Une page cinéma donc avec vous, Elisabeth, et un documentaire qui nous fait faire un bond dans le temps, un bond en arrière de 2 ans. Première campagne, un documentaire signé de la réalisatrice Audrey Gordon et qui revient donc sur la présidentielle de 2017, sur les pas du candidat Emmanuel Macron.
Oui, la course présidentielle de Macron, Audrey Gordon l'a filmée pendant ces 2 derniers mois. La réalisatrice a choisi de suivre les pas d'une jeune journaliste politique de France 2, Astrid Mesmorian.
Ce qui m'a donné l'idée, c'est que je suivais un peu jour après jour les récits d'Astrid Mesmorian, l'héroïne du film, qui me racontait sa première campagne. Et elle était arrivée donc au service politique de France 2 le jour où Macron avait annoncé sa candidature. Elle a commencé à le suivre parce que personne n'était libre. Et tous les jours, elle me racontait comment elle vivait sa première campagne. Et puis, un jour, on s'est eu au téléphone, elle partait suivre Macron à Toulon. Et je lui ai dit qu'elle partait tout le temps et qu'on n'arrivait plus du tout à se voir et qu'il allait falloir que je fasse un film sur elle pour continuer à la voir. Et puis, j'étais dans le métro, ça a coupé à ce moment-là. Et puis, au moment où ça a coupé, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être une bonne idée. Et je l'ai rappelé en lui proposant un synopsis de film, enfin, très, très précis. Et elle a accepté. Et on a commencé tout de suite après.
Bonjour, Sibeth.
Ah, salut, tu vas bien? Ça va?
Arrête de tutoyer les gens. Je m'évertue à les vouvoyer, putain. C'est la folie, là. Ils sont tous sur lui, hein.
Ouais, mais pour avoir des ambiances qui, à mon avis, ne servent pas à grand-chose.
Il fait un sonore, on y va.
Alors, Elisabeth, comment on se prépare à un film pareil?
Comme on peut. Elle a 22 ans, Audrey. C'est son premier film. Alors, donc, elle a plongé dans la piscine sans trop savoir nager. Le titre du film, Première campagne, ça vaut vraiment pour tout le monde, pour elle, pour Emmanuel Macron, donc le plus jeune candidat de la 5e République, comme on sait, et puis, bien sûr, pour la journaliste Astrid. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Jean-François, voir ces images alors qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée depuis 2 ans, ça peut paraître un peu étrange, mais ça ne pose aucun problème à la cinéaste.
Je ne suis pas mécontente qu'il arrive maintenant, c'est une période un peu trouble et bizarre, mais...
Trouble.
Oui, enfin, par rapport au film et par rapport à tout ce que ça raconte. Mais disons que peut-être ce qui m'intéresse le plus dans le fait de le présenter aujourd'hui et de pouvoir échanger autour du film aujourd'hui, c'est que un des aspects de la crise qu'on est en train de traverser, c'est quand même la méfiance immense envers les journalistes. Et donc, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est de pouvoir un peu désacraliser ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du métier de journaliste, surtout dans un moment comme une campagne électorale, et de pouvoir montrer simplement comment travaille une journaliste au quotidien, comme on filmerait un artisan, ou avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans une journée, avec le rythme effréné, avec l'image et le son à rapporter et toutes les contraintes. Et ben, je trouve que c'est intéressant en ce moment de pouvoir montrer ça pour que chacun puisse s'interroger. C'est, le film n'apporte pas de réponse fermée sur la question du journalisme, mais c'est juste une façon de montrer comment ces gens-là travaillent.
Embarrassé par un afflux potentiel d'anciens socialistes vers son mouvement, le candidat d'En Marche en meeting hier soir voulait donc flatter un électorat de droite. Ça marche ?
Ouais, c'est bon.
On a le micro et tout ? Dis donc, il a la classe ton micro !
Alors, on va donc découvrir un micro qui a la classe. Qu'est-ce qu'on comprend, Elisabeth, de ce travail de journaliste en campagne?
Elle lui dit même qu'il a le micro de Frank Sinatra.
Ah oui.
Ce qu'on comprend, c'est le rythme effréné de la campagne qui impulse le rythme du film. Alors, la journaliste Astrid, on la voit toujours, alors, soit dans le mouvement d'un train, soit en train de sauter hors d'une voiture, dans le feu d'un direct, une séquence enregistrée entre deux portes, dans un casting sauvage, on l'entendait tout à l'heure, pour un micro-trottoir. Le paradoxe, c'est que plus elle est proche du candidat Macron, plus il reste mystérieux et difficile à cerner. Et du coup, moi, j'ai eu envie de jouer un peu au jeu des sept erreurs avec la réalisatrice Audrey Gordon, lui demander si elle avait vu des choses qui, nous, communs des mortels, auraient pu nous échapper pendant cette campagne et qu'on comprendrait aujourd'hui, deux ans plus tard. Mais en fait, pas du tout. Et sa réponse, écoutez-la, elle est très, très surprenante.
En fait, c'est curieux parce que après avoir fait le film, donc il a été élu à la fin du film. J'ai mis un certain temps à intégrer que c'était le président de la République. J'avais l'impression que c'était un second rôle du film. Enfin, je le voyais comme ça, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et c'est vrai que je l'ai vraiment vécu comme ça. J'ai du mal à le voir comme un vrai personnage important du film, parce qu'en fait, ça aurait pu être un film sur un autre candidat. Ce qui était important, c'était la journaliste. Ce qui était amusant, c'est qu'à chaque fois, il y avait 200 caméras braquées sur lui, et que moi j'étais toute seule dans l'autre sens face aux caméras des journalistes, puisque je filmais la journaliste, et que tout le monde me regardait en se disant la pauvre, elle n'a pas compris que Macron était derrière elle, elle ne sait pas où ça se passe, enfin elle est complètement paumée. Donc c'est ça qui m'amusait, c'était d'être à contre-courant par rapport au reste de la campagne.
Ouais, contre-courant, alors elle le dit bien Audrey Gordon, mais du coup que dire de son film? Eh bien on peut lui reprocher de rester un peu en surface, enfin même si on voit vraiment les coulisses du journalisme politique. Si on n'en attend pas un précis de journalisme politique, comme vous pourriez l'attendre Jean-François, oui. Eh bien on se laissera porter par son charme, qui est pour l'essentiel celui de sa toute jeune protagoniste Astrid.
Travailler le dimanche quand il y a du pain sur la planche. Merci Macron, merci Macron.
Vous m'en direz des nouvelles.
C'est l'humain et la nature pas toujours tendre avec lui qui inspire le photographe Pierre de Vallombreuse, de l'Inde au Canada en passant par la Malaisie et le Groenland. Il nous embarque, Margot, dans un périple guidé par ses rencontres, des voyages, et qui termine aujourd'hui à plat dans un livre et qui ne manque pourtant pas de relief.
Au hasard des vents, c'est le nom de cet ouvrage de la collection Panoramique d'Edicence, un livre qui se déguste avant même de tourner la couverture. Lorsque j'ai rencontré Pierre de Vallombreuse, le hasard, a fait qu'il n'avait pas encore touché l'objet qui renferme ses clichés.
On a une tranche assez belle, tout a été imprimé sur le reliage des pages, j'ai mis mon nom aussi grand, c'est une émotion. C'est plus petit. Et donc on a une couverture comme ça qui a une texture presque un peu minérale, comme ça on dirait une pierre. Oui, moi je suis très sensuel avec les livres, j'aime les toucher.
Après avoir caressé le livre, la véritable expérience commence une fois la première page tournée.
Alors vous m'intriguez un peu quand même, Margot, que renferme donc ce livre?
Des photos panoramiques, grand format, mais sans rupture au milieu des deux pages. Vous savez, le livre en fait s'ouvre véritablement à plat. Une fois sur la table, il est vraiment à plat, donc le panoramique prend alors tout son sens. Le lecteur entre, pour ainsi dire, dans la scène capturée par Pierre de Vallombreuse, des scènes souvent prises dans l'instant, et c'est là la force de ce format, selon le photographe.
Moi, je vois avec quatre paires d'yeux, quoi, en gros. Donc le défi, c'était, comme je suis pas quelqu'un qui prend un trépied, le panoramique était associé à des photos très cadrées, très souvent avec des pieds, on fait de la voix, et on compose bien. Moi, je voulais le travailler à ma technique à moi, qui est de prendre des instantanés, des moments. Quand j'ai découvert ce fameux appareil qui était le X-Pan de chez Hazelblad. Tout d'un coup, on avait un appareil léger qui permettait de travailler comme avec un Leica ou un Canon normal pour faire ces reportages. Et on a tout d'un coup, on goûte la vie, quoi, parce que la vie vous vient avec deux fois plus d'espace.
Et pourtant, toutes ces photos n'occupent pas l'espace. Certains panoramiques se perdent d'ailleurs sur deux grandes pages blanches.
La mise en page et la perception d'une image, et justement d'avoir un grand espace blanc et d'avoir une toute petite photo, c'est à la fois poétique. Et ce grand blanc est très beau aussi. Les Japonais utilisent beaucoup justement le vide. Et le vide a toute son importance. C'est très beau, c'est un espace de liberté, de tranquillité aussi.
Les clivages sociaux en Bolivie, le travail des enfants dans les mines de Jharkhand en Inde, l'une des zones les plus polluées du monde, ou encore l'histoire des Gwich'in au nord-ouest du Canada, petit peuple qui se bat contre les lobbies pétroliers américains qui menacent les caribous. Depuis 30 ans, Pierre de Vallombreuse témoigne des situations parfois tragiques des peuples autochtones, des reportages photos qui trouvent une forme de poésie.
Je pense que j'ai toujours essayé de trouver, même dans des endroits de détresse absolue, ce qui peut rester de grâce. Et peut-être que j'ai pas envie de me dire que la grâce a disparu, qu'il resterait quelque chose de digne, quoi qu'il arrive, et d'une certaine grâce. Donc là, c'est une photo, c'est incroyable. Cette photo, elle me suit toujours. On a l'impression d'être dans un enfer. Il y a des fumées, il y a des gens qui bossent, des silhouettes. C'est les endroits les plus pollués d'Inde, les plus toxiques, l'air y tue. De temps en temps, il y a des failles, la terre, elle brûle dessous. Et tout d'un coup, il y a des petits hameaux comme ça, la terre s'ouvre, et il y a une maison qui tombe, et tous les habitants sont brûlés. C'est dramatique. C'est une espèce d'enfer sur terre, comme ça. Et en même temps, il y avait une douceur, il y avait quelque chose qui est généré par les gens en eux-mêmes et qui reste. Donc c'est plus cette grâce que j'essaie de trouver, même dans les moments les plus durs. Je pense que c'est histoire de se raccrocher à quelque chose.
Et à travers ces drames, que nous raconte exactement Pierre de Vallombreuse?
Des histoires d'hommes, avec un grand H évidemment. Dans sa préface, le photographe Bernard Plossu qualifie d'ailleurs Pierre de Vallombreuse d'ethno-photographe. Et c'est vrai, l'auteur me le disait, il a besoin d'aller au contact de l'humain, de vivre finalement un petit bout de leur histoire avant de l'immortaliser.
En Inde, avec les rabariques, j'ai vécu une aventure fabuleuse avec cette caravane que j'ai suivie pendant un mois. On marchait par 35, 40, 45 degrés sur les routes, avec les camions, c'est des gens d'un courage exceptionnel. Très, très, très beau en plus, avec grand, eux, par contre, tout un travail de costumes magnifiques, sont très esthétiques.
Des costumes très colorés d'ailleurs, mais ça on ne peut pas le savoir puisque les photos sont en noir et blanc. C'est l'auteur qui m'a confié ce détail.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas de photos en couleur dans ce livre, donc pas de photos de pommes vertes par exemple. Pourquoi Margot? Ça permet au photographe de prendre un peu de distance?
Mais c'est ce que je pensais au départ, Jean-François, mais Pierre de Vallombreuse m'a expliqué qu'il s'agissait justement du contraire.
La couleur peut créer parfois des ruptures, trop de ruptures. Là, ça permet d'avoir, on se dit, tiens, il nous dit, puisqu'il fait tout en noir et blanc, il a une idée derrière la tête et qui était de la reliance. Et puis en plus, il y avait aussi ce fait que souvent, quand on approche les peuples autochtones, qu'on voit les photos, de temps en temps, les gens, ah, c'est joli ce costume, il a des belles couleurs, ah, bah, regarde, c'est chaud. Les gens me disent, ah, bah, j'aimerais bien aller dans la jungle voir les verts. Et je me suis dit, comme je voulais pas travailler sur les clichés, et les représentations exotiques, de voyages comme ça, sur les peuples. Je voulais surtout éviter ça. Le noir et blanc gomme ce côté. Ah bah regarde, avec les Mayas, ils ont des beaux trucs. Alors que les Mayas étaient persécutés, torturés, exécutés par l'armée mexicaine et des paramilitaires. Je voulais surtout pas qu'on puisse, parce que je connais bien, et j'ai bien étudié la question, sur la représentation des peuples autochtones, comment c'est perçu aussi. Quand j'ai réussi à faire passer mes travaux en noir et blanc, j'étais content, parce que tout d'un coup, les gens disaient, ah, il est pas là pour nous faire rêver sur l'exotisme. On n'a pas un regard exotique.
Sans artifice, à travers son objectif, Pierre de Vallombreuse ausculte notre terre et ses habitants au hasard des vents.
Au hasard des vents. Son livre publié aux éditions Edicence. Merci beaucoup, Marco.
Il y a un chat noir sous la lune. Il porte ma mémoire. Et la montagne au loin est une reine de sabbat qui protège nos pas. Il est gravé le cercle intime.
Céline sur RFI, le chat noir sous la lune, sur son disque Le Jardin, volume 1. Alain. Un premier cri.
Vous ne croyez pas si bien dire, Jean-François, car Céline chante entre autres « La vie a retrouvé mon cri », c'est un cri de colibri, un terme récurrent dans ses textes. À quel moment a-t-elle su que son cri deviendrait chant?
C'était blotti contre un piano, donc. Et c'était à un moment donné où j'ai écrit une chanson. Je pense que beaucoup de musiciens vont se reconnaître là-dedans. C'est que, enfin, quand on écrit, c'est beaucoup aussi pour sortir des choses qu'on n'ose pas sortir. Moi, j'étais pas très crieuse. Je parlais très peu. Et le fait de créer des chansons, ça m'a permis de communiquer. directement ce que je ressentais. Et le jour où j'ai vu que ça avait un effet, là j'ai su que c'était ma ligne, qu'il fallait que je suive ça, que je m'y accroche. Je ne savais pas encore exactement, et je sais toujours pas, qu'est-ce que ça peut, enfin le but de la chose, peut-être qu'il n'y en a pas au final. Les raisons ont changé après, les intentions ont changé. Mais oui, ça a été à ce moment-là, et c'était à l'adolescence. J'avais 14 ans.
Monsieur Bérave, Céline, sur ce disque aussi, La vie, une chanson d'amour pour sa famille qui participe à ce disque, hein, vous le disiez tout à l'heure, Alain.
Mais quid de cette chanson ?
Cette chanson-là, c'est vrai que c'est la première chanson que j'ai écrite consciemment pour mes parents. J'aime raconter des histoires intimes, mais souvent par le biais de métaphores et sous le ton du conte de fées. Avec des personnages fantastiques. Ou animiste, mythologique, et ça part toujours d'histoires personnelles et intimes, et celle-ci n'a pas le costume ce costume-là, elle est très ouverte, elle est un peu à nu, et je me souviens d'avoir aussi dû à un moment donné l'assumer sur scène, et j'ai été coachée pour ça, et je me souviens que ma coach m'a dit de le faire vraiment, de la chanter vraiment avec les émotions qui y vont. Et en effet, c'est assez immense pour moi, parce que tout part de là. Tout part de l'enfance, du lien à la famille, de ce qu'on a vécu petit, et même ce qu'on construit après artistiquement et spirituellement.
La vie m'a dit de tomber du nid et de m'envoler la vie. Qui peut s'envoler la vie ? À retrouver.
Céline Lavie, chanteuse, compositrice, auteure, aussi bien influencée par Eric Satie que Kate Bush, qui mêle allègrement dans son opus Jungle, mélopée bretonne, son électro, le ressac du chant hindoustani indien, ou encore le son du ciel qui vire. Mais quelle tonalité peut prendre ce genre de phénomène, Céline ?
Burning sky. En fait, c'est la mélodie qui dessine le ciel est en train de tourner. En fait, là, je décris le dragon qui est en train de tourner dans le ciel, qui s'amuse. Et la tonalité, j'ai un peu mal avec ce mot, la tonalité. Tu me demandes si ça serait triste ou... Oui, c'est ça. C'est pareil, c'est quelque chose de très... c'est une sensation, une énergie... beaucoup de plaisir. Dragons flight as the sun of the turning
sky. The Dragon, Céline, tiré de Le Jardin, album sorti vendredi dernier. Merci Alain, merci également à Fanny, Elisabeth et surtout à Margot qui part vers d'autres horizons radiophoniques. Toute l'équipe de VMDN lui souhaite Margot les meilleures choses du monde et te remercie pour tes mains, pour tes œuvres et pour tes mains d'œuvre. Un immense plaisir d'avoir travaillé avec toi. Bon vent.
Plaisir partagé.
L'info dans un instant sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.